France Musique. Musicopolis. Le Codex Calixtinus, premier pas sur le chemin de Saint-Jacques. Nous sommes en 1164. Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire, roi de Germanie, roi d'Italie, roi des deux Bourgognes, envoie l'évêque de Mayence jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pour honorer la cathédrale en construction depuis environ 90 ans. À cette époque, on voyage à pied ou à cheval. L'évêque est venu avec sa suite, hommes et chevaux. Il apporte avec lui un manuscrit magnifiquement relié, entièrement dédié à la figure de Saint-Jacques. Et pour cette raison, désigné sous le nom de Jacobus. En tête du volume, en guise de préface, une lettre écrite, dit-on, par le pape Calixte II, d'où le nom de Codex, manuscrit Calixtinus. En fait, concernant ce Jacobus, ou Codex Calixtinus, ou Livre de Saint-Jacques, le volume arrive dans les années 1160 à Compostelle. On n'est sûr de rien, et la petite mise en scène que je vous ai proposée peut tout à fait être mise en doute. C'est que pour des événements aussi anciens, on manque souvent de preuves, et les érudits, à grand renfort d'articles et de livres, cherchent à établir la plus plausible vérité. C'est donc peut-être, ou peut-être pas, en 1164, que le Jacobus arrive à Compostelle. C'est un cadeau de prix, et même de grand prix. Le manuscrit fait 225 feuillets en format A4. L'écriture est extrêmement soignée. Il y a des couleurs différentes, des initiales, des capitales et 4 enluminures. Il y a aussi de la musique. Il faut des mois et des mois pour copier aussi soigneusement tout un volume. Je vous disais qu'on n'est pas sûr de grand-chose concernant le Codex Calixtinus. Et pourtant, il y en a au moins une sur laquelle tout le monde s'accorde. Cette lettre préface, signée par le pape Calixte II, est un faux. Ça commence bien. En fait, la lettre est attribuée à Calixte pour donner un certain poids au volume, pour le placer sous un patronage indiscutable. Mais Calixte est mort en 1124 et la rédaction du livre n'a sans doute été commencée que la décennie suivante. Peu importe. Calixte a donné son nom malgré lui au volume et le nom est resté.
Christus,
Qu'y a-t-il donc dans ce manuscrit, le Codex Calixtinus ? Il est composé de 5 parties qui forment le livre de Saint-Jacques. La première partie, la plus longue, près de la moitié du volume, consiste en sermons et liturgies, homélies, messes, offices. On y trouve quelques pièces musicales dans le fil de la liturgie, au moment requis pour être chantées. La deuxième partie est un recueil des miracles de Saint-Jacques. La troisième, le récit de la translation, c'est-à-dire le voyage du corps de Saint-Jacques, de Jérusalem, où il a été décapité, jusqu'à Compostelle. On trouve ensuite une partie appelée « Chronique de Turpin », qui n'est pas plus de Turpin, un évêque, que la préface n'est de Calixte, le pape, mais peu importe, c'est un genre de stratégie marketing. Cette chronique de Turpin raconte l'histoire de Charlemagne et de Roland. Enfin, la dernière partie traite du pèlerinage et des différents chemins qui peuvent amener jusqu'au tombeau de Saint-Jacques, et là se trouvent réunis aussi des chants de pèlerinage. Si ce que je vous racontais tout à l'heure est exact, à savoir que Frédéric Barberousse a voulu offrir le manuscrit du livre de Saint-Jacques à la cathédrale de Compostelle, l'histoire du volume commencerait une dizaine d'années plus tôt. Vers 1155, à l'abbaye de Vézelay, différents auteurs réunissent un certain nombre de textes qui circulent déjà depuis assez longtemps. Par exemple, les 22 récits de miracles de Saint-Jacques, qui d'ailleurs ont souvent été opérés par d'autres saints, mais sont en quelque sorte récupérés pour sa gloire, ont été compilés vers 1130. De même que certains éléments du livre 5 qui racontent les chemins pour arriver à Compostelle. Une fois tous ces documents rassemblés, ils sont apportés à l'abbaye de Cluny, où ils sont copiés et enluminés, peut-être pour le compte de Frédéric Barberousse. Vézelay et Cluny étant en Bourgogne, on souligne là les liens entre la Bourgogne et la Galice où se trouve Compostelle. En effet, Alphonse VII, roi de Castille et Léon, et donc de Galice, jusqu'en 1157, est le fils du comte Raymond de Bourgogne. Frédéric Barberousse, lui aussi, est comte de Bourgogne par son mariage. Au moment où il reçoit, peut-être, le manuscrit recopié à Cluny, il vient d'être excommunié par le pape. Et dans la querelle, Cluny a pris son parti, d'où peut-être le transfert du manuscrit de Cluny à Aix-la-Chapelle où réside Frédéric. L'a-t-il commandé ? On n'en sait rien. Et pourquoi l'offre-t-il ensuite à la cathédrale de Compostelle ? Peut-être pour soutenir le tout jeune roi de Castille et León, Alphonse VIII, âgé de 9 ans, et s'en faire un allié. Ou bien pour mettre en valeur la figure de Charlemagne, objet de la quatrième partie du manuscrit, qu'il voudrait faire canoniser. Le XIIe siècle, période à laquelle est copié le Codex Calixtinus, le livre de Saint-Jacques, est assez particulière. C'est un moment important de la Reconquista, la reconquête par les souverains espagnols des territoires pris par les Maures, les Sarrasins. Cette reconquête est conçue comme une affaire religieuse et nombre de chevaliers d'autres royaumes viennent donner un coup de main, appelés par le pape. On voit arriver des Francs, des Normands, des Béarnais, des Bourguignons. Saint-Jacques est devenu le saint patron de la reconquête et de plus en plus de pèlerins font la route de Compostelle. À la même époque, les rois de Navarre et de León améliorent les routes, construisent des ponts et favorisent les échanges commerciaux et culturels. La cinquième partie du Jacobus, le livre de Saint-Jacques, décrit, je cite, « Les quatre routes qui menant à Saint-Jacques se réunissent en une seule à Puente la Reina, en territoire espagnol. L'une passe par Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier, Toulouse et le Somport. Une autre par Notre-Dame-du-Puy, Sainte-Foy-de-Conques et Saint-Pierre-de-Moissac. Une autre traverse Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, Saint-Léonard-en-Limousin et la ville de Périgueux. Une autre encore passe par Saint-Martin de Tours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean d'Angély, Sainte-Eutrope de Saintes et la ville de Bordeaux.
Fratelli,
La cinquième partie du Codex Calixtinus, livre de Saint-Jacques, s'attache à faire découvrir tous les endroits, les sanctuaires qui méritent la visite sur le chemin de Compostelle. Il donne des renseignements sur les habitants des différentes régions. Et bien sûr, la musique étant une partie importante de la vie de cette époque, elle a aussi sa place dans le livre. Les pièces musicales qu'on trouve dans le Codex Calixtinus sont soit contemporaines, c'est-à-dire du XIIe siècle, soit bien antérieures. Parmi les auteurs nommés, on trouve par exemple Venance Fortunate, évêque de Poitiers au VIe siècle, ou Fulbert de Chartres, évêque du XIe siècle. Les pièces qui leur sont attribuées sont à une seule voix, dans le style grégorien. En revanche, les pièces attribuées aux contemporains sont à deux voix. Parmi ces contemporains, Albert des Parisiens, chantre de Notre-Dame vers le milieu du XIIe siècle, c'est à lui que nous devons l'unique pièce à trois voix du recueil, Con Gaudeant Catholici. Albert des Parisiens, le chantre-compositeur de ce Con Gaudeant Catholici, les contemporains nommés dans le Codex Calixtinus sont Aton de Troyes, Gosselin de Soissons, Albéric de Reims ou Gauthier de Château-Renard, des noms qui indiquent une provenance française. En fait, les pièces musicales du livre de Saint-Jacques forme un recueil de tout ce qu'on connaissait et qui se faisait au XIIe siècle, depuis Paris jusqu'à Compostelle. Toutes les différentes techniques de composition alors connues y sont illustrées. Le Codex Calixtinus a été recopié dès la fin du XIIe siècle. Il y en a une copie en Catalogne. Puis, trois copies ont été réalisées au XIVe siècle, dont une pour le Vatican. Si la partie concernant l'histoire de Charlemagne et Roland a été beaucoup plus recopiée, le reste du manuscrit a été à peu près oublié, bien gardé dans le trésor de la cathédrale Saint-Jacques. Puis, à la fin du XIXe siècle, les archives ont été exhumées et la dernière partie du codex a été publiée en latin. C'était le début d'une nouvelle aventure. Dum pater familias rex universorum, donaret provincias ius apostolorum, Iacobus Hispania.
pars, lux illustrat morum.
Primus ex apostolis, martir hieros olimis, Jacobus ecclesios, sacer ex martirio.
Ce chant de procession, noté à la fin du Codex Calixtinus, n'appartient pas à la liturgie, contrairement aux autres pièces. Il a plusieurs particularités. Il est écrit dans un genre de notation différent de celui des autres pièces. Il a deux refrains, un en latin et un avec des expressions en dialecte germanique et roman. Et enfin, il fait entendre aussi toute la déclinaison du nom Jacobus, chaque strophe avec un K. Une petite pièce pédagogique en somme. Si vous voulez vous mettre au latin, c'est le moment. Pater Familias, une pièce du Codex Calixtinus, chantée ici par l'ensemble Amadis. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Régis Nicolas pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.